Yeah, okay, let's go.
Les pages. Sur Radio G. Aujourd'hui, 4 décembre 2019, septième opus de votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Je vous ai fait rencontrer des éditeurs, des auteurs, des libraires. Je vous ai fait voyager et partager des moments de vie. J'espère même par moments vous avoir un peu ému. Mais je ne vous ai pas encore fait visiter tout ce que recouvre cet univers. Alors, un peu de politique, ça vous dit ? Mais aujourd'hui, de la politique publique. Car s'il est un secteur d'activité qui est traversé par les politiques publiques, c'est bien celui des livres, et depuis de nombreuses années. Les premières bibliothèques publiques sont plutôt le fait de sociétés savantes et voient le jour au début du XVIIe siècle en Angleterre. La première en France voyant le jour dans la première moitié du XVIIIe siècle, à Saulieu, grâce à Claude Salier, bibliothécaire du roi. Politique publique, est-ce que j'ai une gueule de politique publique ? Aurait pu gouailler Arletty. Ridiculisant par les mêmes tous ces technocrates qui n'ont que ce mot à la bouche, qui s'en gargarisent. Mais une politique publique, ça mange ? Ça s'habille ? C'est vivant ? C'est quoi ce truc ? Tout d'abord, une politique publique n'a de sens que si elle est une traduction concrète dans le quotidien des gens, que s'ils en mesurent les effets dans leur vie de tous les jours. Une politique publique, c'est surtout le résultat ou la conséquence, c'est selon, de l'impôt. Une politique publique, comment cela se traduit-il concrètement ? Je vous emmène l'explorer de ce pas et dans le concret, et plus encore dans le Maine-et-Loire. Pour cela, j'ai invité une de ces expressions. Enfin, j'espère qu'elle me pardonnera le terme d'expression, mise en œuvre par le conseil départemental. J'ai nommé le bibliopole. Les communicants ont encore une fois bien travaillé. Bibliopole, ça claque, comme disent les jeunes aujourd'hui. Bibliopole, Bibliopole, biblio pour les livres, et pôle pour lieu ressource, centre névralgique. Oh, là c'est bien trouvé les gars, mais vous les auditeurs, vous connaissez le bibliopole ? Eh bien peut-être pas. Et pourtant, si vous saviez, il est bien plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Pour nous en parler, j'ai invité Martine Boutreux, chargée de communication du dit bibliopole. Bonjour Martine Boutreux.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la communication du Bibliopole. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous parler de ses missions ?
Alors le Bibliopole, c'est la bibliothèque départementale, donc c'est un service culturel, le service de la lecture du département, du conseil départemental. Les missions, la mission première à laquelle on pense tous, bien sûr, c'est la constitution et le prêt de collections, qui sont variées. Aujourd'hui, les collections, ce ne sont plus simplement des livres, c'est également de la musique, du cinéma, des outils d'animation, et également tout ce qui est dématérialisé, toute l'offre de ressources numériques qu'on peut mettre à disposition des usagers. Donc, prêter les collections, c'est la mission première, bien sûr. Mais pas que. Alors, c'est celle qui est la plus connue parce que tout le monde a vu circuler sur les routes du département le bibliobus ou les bibliobus. Mais ce n'est pas uniquement le prêt. On a aussi, au bibliopôle, une mission de formation et d'expertise, de conseil, qu'on va apporter auprès de l'ensemble des bibliothèques qui appartiennent au réseau du département. Alors ça peut aller sur une offre, un catalogue de formation extrêmement varié, annuel, proposé aux équipes de bénévoles et de professionnels de notre réseau. Parce que bien sûr, dans certaines communes, dans certaines bibliothèques de certaines communes, il n'y a pas toujours des professionnels. Il y a aussi énormément de bénévoles qui font vivre ces bibliothèques. Donc on est là aussi pour les accompagner en termes de formation et de conseils.
Justement, peut-être je vais juste là, je me permets de vous interrompre, parce que j'ai l'impression qu'on est allé, comme vous êtes familière de votre environnement, on est allé très vite. C'est-à-dire que vous avez parlé de votre mission, et moi je vais juste essayer de vous faire préciser une chose. Vous parlez de bibliobus. Moi, mon rapport à la bibliothèque, qu'est-ce qu'il est ? Mon rapport à la bibliothèque, d'abord, je vais vous décevoir, je n'ai jamais vu le bibliobus. D'ailleurs, je mens parce que je l'ai vu une fois. Mais je n'ai jamais vu dans ma vie courante. Mais j'habite Angers, donc j'ai une excuse. Et mon rapport à la bibliothèque, il est à la bibliothèque municipale, comme on dit, ou médiathèque municipale. Et donc, c'est ma première rencontre. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu au-dessus des bibliothèques, où vous n'êtes pas tout à fait... vous êtes à un autre endroit, non ? Est-ce que je me trompe ?
Non, vous avez raison. Nous, on... Alors, un peu plus, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que dans nos, les missions, elles évoluent, et aujourd'hui, on propose aussi des choses au plus proche des usagers de ces bibliothèques du département. Mais quand on parle effectivement d'offres de collections documentaires, là, pour le coup, on ne propose pas cette offre directement à l'usager. D'accord. On la propose à des bibliothèques qui en font la demande. Alors, vous parliez d'Angers, effectivement, hors Angers, mais on couvre tout le territoire. Donc, l'agglomération d'Angers et tout le territoire du département, qui évidemment, c'est lié à une convention, on en reparlera tout à l'heure, mais qui en font la demande. Hein, les collectivités en font la demande. Et nous, on apporte notre aide au niveau des collections. Alors le bibliobus, effectivement, ici, il y a bien sûr les routes départementales, mais pas que, parce que de plus en plus, on organise d'autres modes de desserte. Et surtout, on peut dire de faire un petit peu d'histoire. Hein. Les premières bibliothèques départementales, elles s'appelaient Bibliothèque Centrale de Près, parce qu'elles étaient directement rattachées d'abord à l'Éducation nationale, puis ensuite au ministère de la Culture, avant d'être sous la tutelle des départements avec les lois de décentralisation. Et les premiers bibliobus, ils allaient carrément sur la place du village ou dans les écoles, c'était ça. Hein. Et ils amenaient les livres dans les écoles ou sur la place du village. Aujourd'hui, on va dans des lieux bibliothèques.
Voilà, justement, c'est là où des fois c'est un petit peu délicat de comprendre, je dirais, pour l'habitant moyen qui ne cerne pas toutes ces arcanes. Ça veut dire que, parce que quand je prenais mon exemple, je suis consommateur de bibliothèque, je vais à la bibliothèque, je ne vous cache pas que le département est à 1000 lieues de mes pensées quand je franchis la porte. Mais ça voudrait dire, tel que vous le dites là, que la notion de lecture publique entre dans les attributions du département ?
Tout à fait. C'est une compétence dite obligatoire.
Compétence obligatoire.
Bien sûr. Oui.
Alors, si j'introduis, là je vais introduire un gros mot, je vais introduire le gros mot de subsidiarité. Si je l'introduis, le gros mot de subsidiarité, ça veut dire que logiquement, les compétences sont dédiées à des collectivités et la compétence, elle est toujours dédiée au plus près de l'habitant, on va dire. Donc vous avez quand même, vous jouez un rôle, c'est pour ça que c'est important, vous jouez un rôle, je dirais, plutôt un peu au-dessus, c'est-à-dire que vous allez, j'imagine, être dans l'accompagnement, dans l'aide, dans le soutien, c'est ça ?
C'est ça, j'allais ajouter, effectivement. On accompagne et on arrive en complémentarité. C'est-à-dire que l'ensemble de ces bibliothèques du département, elles ont des collections propres. Mais nous, on arrive en support, en complément, en fait. Hein. Donc ça peut se construire en amont. Elles vont avoir des demandes très particulières à laquelle on va répondre. Mais sinon, peuvent venir choisir dans nos collections ce dont ils ont besoin. C'est un complément.
Une collectivité, peut prendre son téléphone, vous appeler et dire, écoutez, moi je souhaiterais organiser la quinzaine du livre de la nature. Est-ce que vous pouvez me faire une bibliographie? Est-ce que vous avez des spécialistes un peu? Vous êtes en capacité de répondre à ça?
Oui, oui. Alors on a évidemment des spécialistes, des collègues qui ont en charge un certain nombre des collections différentes. On a une collègue qui est chargée des collections bande dessinée, des collections cinéma, des collections romans adultes, romans jeunesse, documentaires adultes. Donc tout ça est extrêmement bien organisé.
N'ayez pas peur des mots, bien voilà, organisé, bien il faut dire ça.
Et effectivement, on peut amener ce type de réponse. Alors, c'est plus par téléphone, en général, on fait maintenant ça via notre portail, on fait des demandes de réservation, donc voilà. Mais on arrive vraiment, là, l'idée c'est ça, c'est qu'on arrive avec nos collections, entre autres, avec cette idée de complémentarité.
Alors, on continue là, on essaye de dégrossir un peu et de bien comprendre le paysage. Vous êtes un interlocuteur, et moi je vais utiliser le mot de... spécialisé. Vous avez un niveau de compétence particulier et je vais plaquer ça sur le département. Le département, il va de Cholet à Saumur. Alors, je prends les grandes villes, mais je sais que vous n'êtes pas forcément sur les grandes villes, mais on y reviendra peut-être dans l'éclairage. Mais donc, c'est juste pour délimiter un peu la géographie. C'est grand.
Oui.
Voilà. Vous avez combien de bibliothèques partenaires?
Alors, on est en cours de reconventionnement avec les collectivités et les bibliothèques. On est environ à 232 bibliothèques.
232
Oui, c'est un très très gros réseau.
C'est pas possible,
donc
ça.
Avec 232 bibliothèques et puis c'est plus de 2000 bénévoles. Et une centaine de professionnels sur ce réseau. Donc oui, c'est un très gros réseau, alors, très actif.
Donc, toujours, c'est vraiment, on est bientôt Noël, donc on est devant une boîte de Lego, et puis on essaye en fait de brique à brique, un peu construire tout ça. 232 bibliothèques. Quand vous parlez de 100 agents, ce sont des agents des collectivités locales.
Tout à fait.
Le bibliopole, lui, c'est combien de personnes? Parce que c'est là que ça m'intéresse.
Alors, le bibliopole, c'est une vingtaine de personnes.
Ah, quand même.
C'est pas énorme.
Pour 232, oui, ça commence à faire... il doit falloir travailler, là.
Des équipes une équipe très sollicitée et très dynamique, heureusement. Mais oui, c'est beaucoup de travail. On s'ennuie pas au bibliopole.
Et comme vous dites 20 personnes, j'imagine qu'il y a le personnel un peu de structure qui fait de la communication, qui dirige, et puis il y a les acteurs directs. C'est quelles attributions? On retrouve quel type de métier dans le bibliopole?
Alors, le métier de bibliothécaire, au sens large, le métier de bibliothécaire,
et donc,
bien
ils
sûr.
Sont combien?
On doit être, il doit y avoir deux administratifs, donc on est le reste, vous voyez, à peu près des bibliothécaires, et puis des agents du patrimoine, donc voilà, oui, on n'est pas une très très grosse équipe, mais on est efficace.
Et donc, juste pour finir un peu ce détricotage, vous êtes rattaché à la direction de la culture du département, c'est
ça? Tout à fait, on est rattaché à la direction de la culture, on est un des services culturels, et puis à l'échelle du département, bien sûr. Je voulais juste revenir... Sur ces 232 bibliothèques, il faut dire que le département de Maine-et-Loire a été le premier à mettre en place des réseaux dits intercommunaux de bibliothèques.
Réseaux intercommunaux.
C'est-à-dire que les bibliothèques sur un secteur, communauté de communes très souvent, se sont rapprochées et constituer un réseau dit intercommunal. Bon, aujourd'hui, on parle moins d'intercommunalité, mais avec les
nouvelles... on en parle moins parce qu'elles sont faites.
Voilà, et que maintenant, il y a beaucoup de communes nouvelles. Mais donc, on a quand même un maillage, à l'échelle du département, d'énormément de réseaux de bibliothèques, extrêmement bien organisés pour la plupart. Avec à leur tête un service de lecture. Donc voilà, on a aussi des interlocuteurs très efficaces sur le département.
Eh bien, écoutez, après cette première déconstruction, moi, je vous propose de faire une petite pause musicale. Radio G 101.5, vous écoutez Entre les pages et vous venez d'écouter Zenzile qui, pour ce Dilladen, a mis en retrait son habituel dub. Je reçois aujourd'hui Martine Boutreux et nous parlons de la politique du département du Maine-et-Loire en matière de lecture publique. Alors, suite à cette première séquence de déconstruction, Martine Boutreux, allons un peu dans du concret, du pragmatique. Cette action du département, elle est formalisée comment avec les acteurs de terrain ?
Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, en un mot. Il y a un conventionnement qui est signé entre les collectivités, la collectivité département et la collectivité commune qui souhaite, qui a une bibliothèque. Donc, ce conventionnement, là, on vient de le renouveler. C'est une feuille de route qui pose les bases d'un engagement mutuel entre les collectivités et le département. Et pour l'idée, c'est évidemment de poursuivre et puis d'encourager tous les efforts qui sont déjà entrepris en termes de lecture publique. Et puis pour assumer le déploiement d'une offre culturelle et de lecture publique de qualité auprès d'un maximum d'habitants du département du Maine-et-Loire.
C'est un conventionnement, mais c'est un cahier des charges. Hein ? Ça reste assez précis. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'engagement du département à contribuer au développement de la bibliothèque, mais de manière réciproque, la bibliothèque qui se porte candidate pour avoir ce conventionnement doit répondre à un certain nombre de critères, hein, qui peuvent allé sur la nature de lieu dans lequel la bibliothèque est accueillie, sur éventuellement peut-être aussi, est-ce qu'elle a des obligations dans la convention d'investissement en termes de fonds de livres?
Alors oui, il y a un certain nombre de critères, vous l'avez bien dit. Alors d'un côté, effectivement, le département via le bibliopôle propose d'accompagner, propose ses collections, ses formations, son expertise, etc. On l'a évoqué. Et de l'autre côté, effectivement, la collectivité, via sa bibliothèque, doit essayer de respecter un certain nombre de critères. Alors, on ne les invente pas, ces critères. Hein. Ce sont des critères nationaux proposés par le ministère de la Culture.
Juste, je fais un point d'arrêt. Parce qu'on est toujours dans, faut expliquer. Donc on commence à bien comprendre la bibliothèque, le département, le ministère de la Culture. C'est tout ça, c'est une chaîne.
C'est une chaîne. D'accord. Oui, tout à fait. Mmh. Alors il y a le critère basique de la surface du local en fonction du nombre d'habitants, les heures d'ouverture au public. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, mais qui est important, c'est une convention d'objectifs. Donc, celle qu'on vient de signer, elle est à objectif jusqu'à 2021. Et évidemment, chaque collectivité a le temps de mettre en place les critères qui sont quelquefois assez exigeants, il faut le reconnaître. Hein. Alors, les heures d'ouverture au public, c'est important. Une bibliothèque, elle doit être ouverte pour tous. Et ouverte le plus possible au public.
Mais par exemple, ces heures d'ouverture, la convention prend en compte le fait que quand on est dans une commune de 300 habitants, on ne peut pas développer le
Exactement, et que ce sont des bénévoles qui gèrent la bibliothèque, qui donnent de leur temps. Donc tout ça, évidemment, on en tient compte. Mais bon, c'est quand même un aspect important, les heures d'ouverture, surtout aujourd'hui, avec le rapport Orsena, hein, qui a été proposé.
Attendez, moi je ne connais pas le rapport Orsena, on ne m'a pas tenu informé, je suis désolée.
Alors le rapport Orsena qui a été présenté cette année, c'est un rapport justement sur l'ouverture des bibliothèques, et c'est important parce que une bibliothèque, c'est souvent le seul lieu culturel d'une collectivité, d'une commune, d'une ville, ou en tout cas qui est ouvert à tous et pour tous. Donc il est important qu'il soit ouvert très très largement. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut des moyens humains derrière, hein, bien sûr, et financiers.
Est-ce que c'est ce document qui a émis l'hypothèse d'une ouverture des bibliothèques le dimanche?
Éventuellement, oui, bien sûr, oui. Alors toutes les bibliothèques ne sont pas ouvertes le dimanche, mais oui, ça peut être des propositions d'élargissement des horaires d'ouverture, y compris le dimanche, bien sûr.
Ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, et je pense qu'elle intéresse aussi les auditeurs. Qu'en est-il dans cette convention de la gratuité?
Alors nous, le département ne peut pas exiger la gratuité. Hein.
Donc
nous,
ce n'est pas un élément de la convention.
Non, c'est pas un élément de la convention. Non. Non, les éléments de la convention, donc je l'ai dit, surface, heure d'ouverture, éventuellement le personnel. Hein, c'est une commune à partir de 2000 habitants, théoriquement, pourrait avoir un personnel professionnel. Le budget d'acquisition, bien sûr, pour les collections. Un budget d'action culturelle aussi, parce qu'une bibliothèque aujourd'hui, ce n'est pas qu'un lieu de prêt et de retour de documents, c'est aussi un lieu de diffusion culturelle. Et puis, il faut aussi faire vivre ces collections, les valoriser, donc mettre en place des animations, des actions, et ça a un coût. Donc, on pense que c'est important qu'il y ait un budget pour l'action culturelle dans les bibliothèques. Donc, je me souviens plus que vous m'avez...
Ne vous inquiétez pas, vous répondez, parce que je vous ai interrompu sur la gratuité, vous avez continué sur la question des attributions, des missions, de contenu de la convention, donc en déclinant un peu, parce que vous l'imaginez bien, on est dans une émission de radio, il y a plein de maires qui nous écoutent, et peut-être que des maires vont tout d'un coup se dire, mais ce truc, ça m'intéresse, enfin, ça peut être tout d'un coup génial, encore qu'avec 232 conventions, c'est... Le territoire doit être bien, bien couvert. Donc, vous avez, je pense que c'est des explications techniques, mais qui sont très importantes parce que je crois que l'habitant moyen, est un peu dessaisi de ces paramètres-là et tempête, par exemple, en disant dans son village, mais pourquoi que la bibliothèque, elle n'est pas ouverte de 11h à midi, parce que moi, je suis disponible de 11h à midi. Et donc, il y a toute une réflexion qui a été conduite en termes d'aménagement du territoire. Et je crois que c'est important de le rappeler. Dans le bibliopole, à nouveau, vous allez me dire si je me suis mal informé, vous faites l'acquisition de livres, mais je crois que vous ne la faites pas comme ça, de manière au hasard. Il me semble, dites-moi si je me trompe, que vous appuyez sur un comité de lecture.
Alors, pas tout à fait. Effectivement, il y a des comités de lecture. Mais en amont, ce sont nos bibliothécaires qui ont la compétence et les outils qui vont faire les acquisitions des différentes collections. En revanche, le comité de lecture, il est important parce que comité de lecture ou d'écoute ou de visionnage ou d'application, puisque oui, maintenant, nos collections, elles sont quand même très, très larges.
Sur tous les supports, le livre, la vidéo, la musique, le multimédia.
Voilà. Donc, les collègues bibliothécaires organisent de façon régulière, ça peut être tous les mois, tous les deux mois, des comités qui rassemblent des professionnels et des bénévoles de notre réseau et qui vont venir sur un temps pour présenter leur coup de cœur et en faire une sélection qui sera ensuite proposée comme un outil, effectivement, de travail pour les équipes des bibliothèques, soit sur du conseil à l'usager, soit pour leurs propres acquisitions dans leur bibliothèque. Donc, effectivement, ces comités sont très riches parce que ils sont constitués de plusieurs personnes qui vont arriver avec leurs différentes
sensibilité,
merci.
Ces personnes, physiquement, ce sont qui ? Ce sont des bénévoles ?
Oui, des bénévoles ou des professionnels du réseau.
Et un comité de lecture, il est composé d'environ combien de personnes pour qu'il soit à peu près efficace ?
Entre 10 et 12 personnes. Se voit régulièrement, hein, oui. Qui s'engage sur une année à y participer. Oui.
Donc, je ne sais pas, je vais prendre au hasard une ville comme ça qui me vient à la tête, mais s'il y a des auditeurs de là-bas, ils se douteront bien pourquoi je pose cette question. Un habitant d'Ingrande peut très bien s'adresser à la bibliothèque en disant, écoutez, moi, j'aimerais bien faire partie du comité de lecture.
Alors, le comité de lecture, il faudra qu'il soit bénévole dans la bibliothèque d'Ingrande.
Oui, c'est la réponse qu'on lui fera. Voilà. Mais un habitant qui peut se dire, moi, je suis passionné par les bouquins ou par les DVD, j'ai une petite expertise ou un goût pour ces choses-là, et il peut donc venir...
Voilà,
Si il est bénévole dans la
bibliothèque.
Donc le réseau, autre élément qui vient d'apparaître aussi dans notre discussion, la notion de bénévolat, c'est-à-dire que ce réseau-là ne pourrait pas fonctionner sans les bénévoles.
Ah ben, aujourd'hui, non. Très clairement. Très clairement.
Et ces bénévoles, parce qu'on est sur une matière sensible, le livre ou les supports culturels quels qu'ils soient, ce sont des objets particuliers et j'imagine donc que ces bénévoles, vous les accompagnez au travers de formations, enfin vous les renforcez pour qu'ils puissent exercer leur mandat de bénévole de la meilleure manière qui soit.
Tout à fait. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, une des missions du Bibliopôle, c'est aussi l'axe formation ou accompagnement et expertise et conseil. Donc, effectivement, ils peuvent s'inscrire à un certain nombre de formations. Aujourd'hui, en plus, depuis quelques années, on propose des formations délocalisées sur le territoire. Donc, évidemment, on s'appuie aussi beaucoup sur nos réseaux qui sont constitués, nos réseaux de bibliothèques. Pour proposer une offre au plus proche de la demande et des envies des bénévoles comme des professionnels du reste.
Hein. Eh bien, écoutez, nous avons fait un tour large, je ne sais pas. On a essayé d'être complet. Je vous remercie, Martine Boutreux, pour de nous avoir transmis toutes ces informations. Notre volonté, elle était vraiment, elle est vraiment d'essayer de faire comprendre aux auditeurs comment toutes ces choses-là fonctionnent. Mais dans la lecture publique, il y a d'autres champs. Et donc, il y en a un autre, mais qui ne ressort pas immédiatement du département, mais qui concerne fortement, d'ailleurs, la ville d'Angers. Et donc, je vais passer le micro à Inès, qui aborde un des aspects de la lecture publique plus spécifique à Angers, mais pas que.
Si, dans la grande tradition de l'apprentissage des langues, je vous pose la question classique « Où est la bibliothèque ?», votre premier réflexe, si vous habitez à Angers, ce sera « Ah oui, la médiathèque Toussaint, c'est celle qui est à côté du musée ». Mais si vous demandez à un de nos, en gros, 24 000 étudiants dans la ville d'Angers, la réponse sera sûrement un petit peu différente. La BU, celle de Saint-Serge ou celle de Belleveille ? Parce que si la médiathèque Toussaint ou la bibliothèque Nelson Mandela sont des institutions, les BU d'Angers, c'est encore bien plus que ça. On y trouve tous les ouvrages stimulants nécessaires à la réussite universitaire et intellectuelle de nos jeunes étudiants, mais en plus aussi les archives de tous les mémoires et de toutes les thèses, et les écrits de nos enseignants-chercheurs, mais aussi des BD et des DVD, vu que bon, la phonétique ou l'embryologie et l'anatomie comparée, c'est sympa deux minutes, mais des fois on a quand même envie de faire des pauses. Pour les étudiants en sciences humaines, la BU de Belleveille est une dépendance de leur logement Crous, où ils ont loisir d'aller pleurer sur le non-avancement de leur mémoire, du lundi au jeudi de 8h à 20h, ou du vendredi au samedi jusqu'à 18h. Pour les étudiants en santé et en droit éco-gestion, la BU de Saint-Serge est une résidence principale où ils vont pour souffrir et consommer leur cocktail Red Bull Guronzan jusqu'à, quelle chance, à Angers, 22h30 tous les soirs de la semaine, et maintenant même le dimanche jusqu'à 20h. Et s'il y en a qui découvrent avec étonnement l'étendue des horaires d'ouverture de la BU d'Angers, qu'ils sachent que c'est ni un accident, ni une norme nationale. En effet, comme presque tous les autres aspects de la BU, les horaires sont soumis à un vote, et ces horaires, parmi d'ailleurs les plus étendus de France, sont donc une décision démocratique. Mais la démocratie dans les bibliothèques universitaires, comment ça marche ? Eh bien, Jamy, il faut savoir qu'une université a un conseil d'administration avec des élus, parmi les étudiants, les personnels et les enseignants-chercheurs. Et que dans ce conseil d'administration, on fait l'élection de ce qu'on appelle un conseil documentaire, qui est la puissance occulte contrôlant les BU d'Angers. Mais qu'est-ce qu'on vote dans ce conseil documentaire ? Je suis bien placée pour répondre à cette question en tant qu'ancienne élue, et je vais donc vous dévoiler les secrets du conseil documentaire. On y discute des questions aussi bassement matérielles que le règlement intérieur, par exemple pour répondre à la question « comment définir ce que veut dire manger dans la BU ?» très important quand on a beaucoup d'étudiants. L'amélioration du signalement pour les étudiants qui ne connaissent pas par cœur le système de classification décimale de Dewey. Ce sont les petits chiffres et les petites couleurs sur le dos des livres quand vous êtes dans une bibliothèque. L'aménagement de garages à vélo et d'autres choses. Ou bien des questions de recherche universitaire comme à quelle revue scientifique s'abonner, quelle base de données choisir, comment améliorer l'archivage et le partage des écrits de recherche de la bibliothèque d'Angers. Et même si les questions du partage du savoir, de mobilité ou d'accessibilité sont éminemment politiques, ces questions font en général l'unanimité dans le conseil et relèvent plus du brainstorming. On débat aussi au conseil documentaire de sujets très polémiques, notamment les horaires d'ouverture. Les horaires d'ouverture qui ont demandé une année entière de débats enflammés entre les élus, le personnel, les syndicats et les fédérations étudiantes avant d'arriver à cette ouverture le dimanche. Pour ainsi dire, aucun des étudiants qui profitent de cette ouverture n'est conscient du travail qui a été fait par le conseil documentaire pour réfléchir à cette ouverture. Le conseil documentaire continue donc son travail dans l'ombre. L'étudiant en pharmacie reprend une gorgée de Monster et la bibliothèque fermera vers 20h30.
Se lève dans la douceur, les bruits, les rêves, dos à dos, j'effleure.
Radio G, entre les pages, 101.5, et c'était Despresse qui chantait Ciel, un groupe bien dans le son d'aujourd'hui. Et c'est l'heure de Julien Védrenne. De quoi va nous parler sa chronique ? Je subodore qu'encore une fois, elle sera noire, très noire.
Nous sommes au mi-temps des années 80. Le monde des littératures policières françaises s'éveille. Quelques salons du genre naissent, comme à Reims et à Angers, sous la férule de Jean-Paul Guéry, qui y fait venir quelques illustres inconnus, qui se nomment Jean-Bernard Pouy ou encore Daniel Pennac. Le salon des littératures policières d'Angers ne tiendra que 3 éditions. Mais dans le même temps, un fanzine a vu le jour. 1984, La tête en noir. Pour ceux qui ne le savent pas, le fanzine est un magazine gratuit écrit par des fans. En général, il est constitué de pages au format A4, pliées en deux, et quand il y a des agrafes pour les maintenir, c'est le grand luxe. Ajoutons que le corps de la police de caractère est souvent très petit, et que l'on se doit d'avoir par page 3 colonnes au moins de texte dense, avec quand même, il faut bien l'avouer, quelques illustrations pour l'aérer. Eh bien, le fanzine concocté par Jean-Paul Guéry n'a pas échappé à ses règles. Mais il a au fil du temps évolué, et il est toujours debout, du haut de ses plus de 25 printemps. Mais pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que Jean-Paul Guéry, grand ordonnateur de la chose, capable d'une patience sans limite quant aux nombreux retards de ses rédacteurs, et qui arrive, on ne sait comment, à tenir des délais d'impression avec une rigueur qui impressionne. 6 numéros par an avec parfois même des suppléments. Ensuite, parce que le talent de JPG est d'avoir bâti au fil du temps une équipe de rédacteurs très différents mais enthousiastes qui éclairent ces littératures policières de leur œil curieux, sagace et subjectif. Le public ne le sait pas, mais nombre d'entre ces rédacteurs œuvrent ici et là à la promotion de ces littératures de bien mauvais genre, à l'instar de Feu Claude Mesplède, de Michel Hamelin ou encore de Christophe Dupuis. Et puis, il y a les illustrations tendance hard-boiled de Gérard Berthelot, seul présent depuis les débuts avec JPG. Alors, Gérard Berthelot, on le connaît pour ses bandes dessinées issues de La Ligne Claire, comme sa série avec Albert Londres, véritable modèle dérobé par Hergé pour inventer Tintin. Il dessine entre 5 et 8 illustrations qui parsèment le fanzine, dont celle de la première page, qui lui donne cette tonalité toute particulière qui en fait à la fois un objet de convoitise et de collection. Aujourd'hui, le fanzine en est à son numéro 201. Il arbore fièrement en première page son prix Maurice Renaud, décerné l'année dernière par 813, l'association des amis des littératures policières. Juste récompense pour le travail de fourmi titanesque de JPG. Les collaborateurs sont une douzaine, dont nombre d'Angevins, d'origine ou d'adoption. Ceux qui veulent y adhérer peuvent contacter Jean-Paul Guéry, G-U-E-R-Y, au 3 rue Le Neveu à Angers, 49 100. Ils trouveront dans ce 16 pages au moins un rédacteur auquel s'identifier et qui leur proposera des lectures qui les raviront. Et c'est bien le but d'un fanzine, non ?
Julien vient de vous en parler et moi je vous la recommande. La tête en noir est le fanzine idéal pour les amateurs de romans noirs. Il est très bien écrit et il ouvre de multiples portes. Et puis un fanzine parfaitement documenté, gratuit, mais pourquoi s'en priver ? D'une revue l'autre, comme aurait pu dire Céline. Après cette chronique de Julien Védrenne, nous passons sans honte et sans transition à une version élégante, classe, aurait-on dit il y a quelques années. Je reçois maintenant Joël Glasiou, directeur de publication de la revue Arfan. Bonjour.
Bonjour.
C'est le numéro 55 de votre revue et vous m'avez piégé tout à l'heure puisque vous m'avez fait reconnaître que je ne savais pas compter. Et c'est donc votre 28e année d'existence.
Tout à fait, c'est un semestriel, donc, 28 par 2, 56 au mois de janvier prochain.
Donc, vous avez encore des nouvelles à nous raconter ?
Oui, bien sûr, oui. énormément, vu tout ce qu'on reçoit par courrier et tout ce qu'on sollicite par ailleurs auprès d'écrivains et nouvellistes reconnus, on a de quoi tenir un bon moment.
Donc, vous recevez
ouais.
et vous sollicitez.
Exactement, 50-50 à peu près. Dans un numéro, il y a la première partie est en général liée aux écrivains que nous sollicitons, avec très souvent un entretien. Et la seconde partie est liée au comité de lecture qui sélectionne grosso modo 5 ou 6 nouvelles tous les 6 mois à partir des courriers que nous recevons.
Alors, juste pour comprendre, parce que votre revue est un petit peu particulière. D'abord, elle est très belle. Enfin, moi, j'adore. Et en fait, plus que la revue, j'adore le nom. Le harfang est un oiseau qui m'a toujours fait rêver depuis des années.
Chouette blanche des neiges.
Exactement. Et donc, voilà, quand j'ai vu le nom de cette revue, je me suis dit, bon sang, ça doit être des gens bien pour choisir un nom pareil. Mais justement, et petite explication, votre revue se présente bizarrement puisqu'elle a une couverture qui annonce un programme et une quatrième de couverture qui continue d'annoncer un programme.
Voilà,
c'est ce que vous venez de dire ?
C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire les deux parties, la partie rédactionnelle, la partie de ce qui nous est envoyé par les nouvellistes amateurs.
Bien. Quand vous sollicitez des auteurs, vous les sollicitez sur quelle base ? Alors, des concours, c'est des appels à écriture ?
Bon, c'est vraiment lié au hasard. Une revue, c'est quand même quelque chose qui fonctionne dans l'urgence, même si c'est tous les 6 mois. C'est lié à des rencontres, c'est lié au carnet d'adresses que nous avons depuis quand même 25 ans. Je pense que j'ai bien 200 adresses d'emails d'auteurs. Auteur de nouvelles, donc on est à peu près, je pense qu'on a publié 600 nouvelles de 400 auteurs différents, hein, pour situer à peu près. Hein. Donc oui, voilà. Quelle était votre question là ?
Non, je me demandais comment vous, parce que il y a les textes qui sont envoyés, on va y revenir, mais il y a la sollicitation.
Oui,
c'est la nature de la sollicitation.
Alors donc lorsque nous sollicitons quelqu'un, et en général il y a donc, est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à 3 ou 4 questions autour de la nouvelle et plus, et aussi de nous donner, enfin de nous faire une petite bio-biblio très rapide, on reste très léger là-dessus, mais c'est très important, une présentation quand même, et d'autre part, nous offrir, parce que c'est en termes de cadeau, entre guillemets, pour nous et pour les lecteurs, d'un texte court qui n'est pas forcément une nouvelle, mais qui est au maximum de 20 000 signes, c'est-à-dire une quinzaine de feuillets.
Quand vous dites qu'ils nous font cadeau, ça veut dire que les auteurs ne sont pas rétribués ?
Non, non. Là, on n'a pas les moyens, je dois dire, donc on peut parler finances, si vous voulez. Donc là, bon, ils ont des exemplaires gratuits, si vous voulez, hein, de même que les amateurs qui nous sollicitent. Hein, s'ils veulent d'autres exemplaires, on leur fait un prix d'auteur, voilà. La revue n'est pas subventionnée, alors je voudrais insister là-dessus. Hein, voilà,
c'est
donc,
important.
Nous sommes une exception culturelle, totale, tout au moins pour les revues de littérature.
J'ai rencontré une exception culturelle aujourd'hui.
Voilà, en ce qui concerne la littérature, tout au moins. Pour une revue qui dure depuis plus de 10 ans, même 28 ans pour nous, je crois que nous sommes les seuls à ne pas avoir sollicité. Nous avons un numéro qui a été subventionné. C'est un numéro où on a travaillé autour de la nouvelle des Pays de la Loire. Et donc là, on a eu une subvention. On est monté à un tirage de 500 exemplaires. Hein, voilà, c'est la seule fois.
Parce qu'il y a des financements qui sont délivrés par le ministère de la Culture autour
oui,
de l'édition.
Alors, dans un premier temps, nous ne pouvions pas dans notre région avoir accès pour 2 raisons. C'est parce qu'il n'y avait pas d'office du livre, enfin de DRAC livre dans notre région, d'une part. D'autre part, il y avait une revue qui mangeait toutes les subventions de la région, c'est la revue 303, qui est une merveille, mais qui évidemment... voilà. Donc il nous manquait, pour obtenir une subvention du CNL, il manquait un étage intermédiaire, une marche intermédiaire. Donc nous ne l'avons pas, on ne l'a pas demandé, on s'est débrouillé tout seul, et ensuite on aurait peut-être pu, mais on n'a pas voulu, et donc on est resté avec nos abonnements, principalement, et donc nous avons de fidèles abonnés qui nous permettent de poursuivre. Et donc, en fait, la revue appartient aux abonnés, d'une certaine
bien
manière.
Sûr,
voilà. Et donc,
sûr.
On ne peut pas faire plus que...
Bien sûr.
Voilà.
C'est combien d'abonnés, en fait?
Alors, on fonctionne avec la règle du tiers, si vous voulez. C'est-à-dire qu'actuellement, on est à peu près à 300 tirages. Donc, une centaine d'abonnés fixes, une centaine qui se vendent. Et le reste, on en donne beaucoup aussi. On en donne... Voilà. Et donc, ceci étant à peu près clair, nous permet de survivre. Et je pense que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de survivre. Beaucoup de revues ont disparu, hein, que ce soit en poésie, en nouvelles. Nous ne sommes que sur le territoire français. Il y a moins de 5 revues de nouvelles qui ne publient que de la nouvelle.
Est-ce que la nouvelle, effectivement, c'est un genre qui est malgré tout bien partagé, si on s'y intéresse un petit peu.
J'ai l'habitude de dire que c'est pas un genre mineur, hein, y a pas à avoir honte vis-à-vis de la poésie a 500 revues, mais des revues qui sont très éphémères, pas du tout par rapport au roman non plus, sinon elle est minoritaire en nombre de parutions, 5 revues c'est très peu, ça fait une surface éditoriale absolument minuscule, ce qui fait qu'on est très sollicité par des amateurs, hein, voilà, c'est tout, hein. Nous on publie quoi, grosso modo 10 nouvelles d'amateurs par an.
Oui, oui, oui. Ce qui quand on va regarder.
Imaginez qu'on en soit des centaines. Pour...
Bah oui, voilà. Moi je me suis un peu intéressé au genre sur les plateformes numériques et c'est des centaines et je vais même dire des milliers. Je ne parle pas de la qualité, hein, je me garde bien d'évoquer ça, mais qui sont publiés numériquement, ça n'empêche pas d'ailleurs des gens d'émerger de cet univers-là. Comment un numéro de la revue se construit ?
Alors, ça peut être très très différent, parce qu'une revue, c'est lié à l'urgence, comme je le disais tout à l'heure, c'est lié à des rencontres de hasard. Si vous avez en main l'avant-dernier numéro, pas le 55, mais le 54, justement, on a fait, on a avoué un certain nombre de nos petites, nos petits trucs, etc., pour dire, bon, il y a deux grandes options, si je puis dire. Mm-hmm. Quand on est devant un recueil de nouvelles, très souvent aujourd'hui, le lecteur veut qu'il y ait une certaine unité. Une revue, c'est l'inverse de l'unité, c'est-à-dire c'est une mosaïque de textes, hein, et c'est le cas du numéro 55 qui vient de paraître, où les textes sont vraiment très très différents, et donc là, un lecteur lambda va forcément trouver un texte qui l'intéresse dedans, et même j'espère beaucoup plus, hein, etc. Mais vraisemblablement, tout ne lui plaira pas, on passe en revue tous les aspects de la littérature ou de la nouvelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il peut avoir une nouvelle polar, une nouvelle fantastique, une nouvelle humoristique, c'est le cas dans le dernier là, avec Thierry Covolo, ça peut être très dramatique comme les nouvelles de Leïla Sebar sur le drame de la colonisation en Algérie.
C'est celle que j'ai sortie.
Voilà, ça peut être ça peut être des milliers de choses, hein, très 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 différentes. Donc un numéro, je dirais éclectique. Ça, c'est très souvent le cas. Ça ne veut pas dire que c'est du tiroir ni rien. C'est très, très différent, avec de la qualité, bien sûr. C'est ce qu'on recherche. Et on est très sélectif. J'ai encore reçu un mail tout à l'heure disant bon, je n'ose pas envoyer un texte à votre comité de lecture absolument qui fait régner la terreur parmi les nouvellistes. Bon, ben oui, mais on reçoit 100 textes, on en prend un, quoi. C'est aussi simple que ça. L'autre possibilité pour une revue, c'est d'avoir une petite idée en tête en cours de route. Alors ça peut être un numéro thématique, nous en avons fait un certain nombre, hein, nouvelle algérienne, nouvelle canadienne, nouvelle, voilà, par exemple, ou nouvelle polar, hein, avec les... ou bien en essayant de chercher un fil rouge. J'irais, on va reprendre le titre de votre émission, quelque chose qui va passer entre les lignes et qui va tout relier. Hein, ça peut être discret, ça peut être donc des thèmes ou des écritures qui vont aller dans le même sens et qui forment une certaine unité. Et les lecteurs nous renvoient ensuite, certains préférant effectivement que ça soit unifié, d'autres pas. Voilà, ça, après, c'est une question de goût.
S'il y avait un auteur que vous deviez... comment dire, dont vous êtes que vous êtes le plus fier d'avoir édité, ce serait qui ?
Alors, oui, il y en a beaucoup.
Oui, mais j'ai dit un.
Voilà, un seul. Eh bien, écoutez, je vais penser à quelqu'un qui s'appelle Jean-Christophe Duchon-Doris, que nous avons découvert dès le départ. Il avait eu le prix de la nouvelle, le Goncourt de la nouvelle, hein, et on avait publié un de ses textes qui était absolument remarquable dans un numéro ancien. Et il nous a ensuite offert au moins une demi-douzaine de textes depuis. On est resté fidèles.
Bien. Eh bien, écoutez, sur cette brève présentation de la revue Arfan, qui est une revue dont moi je suis. Donc j'ai lu le dernier numéro, j'ai lu l'avant-dernier numéro, j'ai lu l'avant-avant-dernier numéro. Je peux dire effectivement qu'il y en a pour tous les goûts. Moi, c'est évident que la nouvelle de Leïla Sebar m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. J'ai été moins sensible à celle de Nicolas Jean. J'en ai lu, je pourrais les parcourir. Je vous remercie de nous avoir fait partager. Je ne peux que recommander cette excellente revue que l'on trouve dans les librairies d'Angers sans aucune difficulté. Et ce n'est pas une nouvelle que va lire Inès. C'est un extrait d'un petit livre publié il y a maintenant 10 ans. Mais cette lecture, c'est surtout une manière de teasing auquel nous cédons. Enfin, en français, on va parler d'aguichage. Cela a un petit côté années 50. Vous ne trouvez pas ce mot aguichage ? Allez Inès, à toi.
Pépère était toujours assis au bout de la grande table pour le petit déjeuner vers 9h. Mais le midi et le soir, il se mettait face à la porte pour voir les visiteurs arriver et le facteur. Toujours les mêmes rituels, et c'était important pour que la vie s'écoule normalement. Quand il s'asseyait et qu'il prenait sa tasse et son couteau, Mémère, sans rien lui dire, sortait le pot de rillettes en grès et la soupe qui chauffait sur la cuisinière. Il était en marcel et en ceinture de flanelle. Il venait de finir sa journée. Ben oui, même le dimanche, les légumes, il faut les ramasser, l'herbe pousse et repousse, le foin sèche et les bêtes mangent. Attablé à manger son assiette de soupe bien chaude, faisant chabrot avec sa tartine de rillettes, il écoutait le poste. C'était Geneviève Tabouy, le midi, sur Radio Luxembourg. Les rillettes étaient conservées à la cave, avec les autres conserves, les cornichons, les confitures, la viande dans le sel, les tonneaux de vin pas bon qui piquaient, du grelot ou du merlot, et les romans photos « Nous deux », bien empilés et ficelés par moi. L'été, on défaisait les ficelles et on se couchait sur une vieille couverture sous le marronnier pour les lire. Qu'est-ce que c'était bien ! Personne ne nous disait que c'était nul. On avait 10 ans. Les « Nous deux », ils finissaient coupés en morceaux, accrochés dans les toilettes, derrière la maison. Chez mes mères, je n'ai jamais connu autre chose qu'un évier dans la cuisine comme norme de confort. Pourtant, il était toujours bien propre, bien rangé, à la maison chez mes mères. La toilette du dimanche matin, c'était dans une remise à côté de la maison, sauf pour les enfants de la ville. Mes mères, elles faisaient chauffer de l'eau dans une bassine grise en alu, et elles jetaient l'eau sur notre dos avec une louche, tout en frottant bien fort. On avait un peu froid, alors elles frottaient plus fort. Même des années plus tard, quand elles vécut dans un foyer-logement, où tout le confort était dans une seule pièce, elle continuait à se laver avec la bassine. Elle disait que ça lavait mieux. Puis, quand il faisait beau, Pépère se rasait dehors, assis sur une chaise paillée, toujours la même, devant une petite glace accrochée à la vigne le long du mur. Il maniait avec agilité un coupe-chou, une grande lame finement aiguisée, un vrai couteau. Jamais nous ne l'avons vu se couper. Il mettait une serviette autour de son cou, et il avait un blaireau et du savon à barbe dans une boîte. Ça sentait bon. Il sanglait la ceinture de flanelle bien propre autour de son ventre. Ben oui, c'était comme un bandage bien serré sur un pantalon du dimanche. Alors, mes mères sortaient des tiroirs de la commode, la chemise bien repassée, et de l'armoire normande, la cravate et le costume. Il sentait fort l'antimite, le beau costume, et c'était toujours le même. Pas changé, pas grossi, Pépère, juste vieilli. C'était un grand bonhomme qui clopinait, et qui ne se plaignait jamais, mais qui grognait tout le temps. Il pestait après le gouvernement, après le père Salé, le propriétaire qui les exploitait, et il râlait après mes mères, qui n'allait pas assez vite, ou qui ne trouvait pas son petit portefeuille où il mettait 3 sous pour la chopine. Il boitait à cause d'une jambe plus courte que l'autre. Il avait pris un coup de pied de cheval quand il était jeune, et comme il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque, il était resté allongé des mois. Mes mères avaient dû faire 4 journées en une, la ferme, les animaux, le jardin et les 3 enfants. C'était aussi pour ça qu'elle était pliée en 2. Il avait de l'allure, Pépère, dans son costume, du dimanche en flanelle. Une belle tenue, avec un chapeau en feutre marron et un grand mouchoir blanc bien repassé, aspergé d'eau de Cologne et vérifié par mes mères avant le départ. Mes mères, elle aimait que tout soit bien propre et bien repassé. Faut dire que c'était son métier. Elle a lavé et repassé toute sa vie pour les bourgeois, comme elle disait, avec un brin de respect, un brin de moquerie et le reste de rage.
Radio G, et c'est toujours entre les pages. Merci Inès. Ce petit texte est extrait du livre de Martine Thouet, Je voudrais être Lénine. Mais j'ai parlé de teasing, d'aguichage avant cette lecture et je vous devine impatient de savoir en quoi ce texte pourrait être aguiché au-delà des souvenirs qu'il peut faire ressurgir dans la mémoire de certains d'entre vous. Eh bien, c'est pour vous annoncer le 2e enregistrement en public de l'émission Entre les pages.
Nous vous invitons à assister à l'enregistrement de l'émission qui sera diffusée le 1er janvier et pas dans n'importe quel lieu, au Lénine Café sur l'île de Chalonne, le dimanche 22 décembre de 15h à 16h. nous aurons quelques invités de marque et nous visiterons, avec Martine Thouet, la bibliothèque du Lénine Café. Il sera ouvert tout le dimanche 22 décembre et le midi, il servira son traditionnel repas de Noël russe. Vous pouvez dès à présent réserver. Sinon, je vous rappelle le 20e salon Angers BD, les 7 et 8 décembre prochains. Il y aura rien que du beau monde, 60 invités, parmi lesquels les locaux Olivier Supio et Gérard Berthelot, mais aussi Jacques Nicolaou, le dessinateur de Placide et Museau, qui firent les beaux jours de Vaillant et Pif Gadget, souvenir, souvenir. Et la librairie Miragone, ne manquez pas la subtile exposition de Justin Palermo, dire qu'il fait dans la dentelle est un doux euphémisme. La quatrième rencontre des bouillons de lecture avec Cécile Coulon autour de son livre Une bête au paradis aura lieu le 19 décembre à 19h30 au Théâtre du Quai. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre Die Laden de Zenzile, extrait de l'album Berlin, Ciel de Després, encore un groupe accompagné par le Shabada, la chronique de Julien Verden était confortablement allongée sur les nappes de So the Devil du groupe Link et le générique de l'émission est toujours de Tilacine.
Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de radio-g.org à la date de l'émission. Vous pourrez aussi découvrir le programme de l'émission du 18 décembre. Merci à vous Martine Boutreux du Bibliopole et Joël Liasiou de la revue Arfan pour votre participation. Au revoir. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI qui sera suivi par L'Oreille Curieuse, émission animée par Anneli. Inès Samat et moi-même vous souhaitons une excellente soirée. Et maintenant, générique.
Yeah, okay, let's go.